franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Rome et les barbares. On sait, inutile de vous le répéter, chers écouteurs, l'Europe et les États-Unis n'ont pas très bonne mine aujourd'hui, alors reviennent les sinistres figures de style classique. Dans l'histoire de l'Occident, nous serions en déclin, en fin de cycle. Alors c'est le moment de revenir à l'histoire romaine, qui est la matrice de beaucoup de nos modèles d'interprétation. Ceux qui la pratiquent laissent au péplum le concept anxiogène de chute de l'Empire. Il n'y a pas une chute brutale, plutôt une lente glissade, et ils bannissent le mot décadence, ou alors il faut concevoir que la décadence se produise dans la surabondance. Le juste nom du monde que nous allons visiter ce jour, c'est l'Empire tardif. Rome y fait aux barbares une place qui n'est pas nécessairement celle que nous imaginons, et la fin de l'Empire, au bout de longs siècles, ne signifie pas la fin de la romanité. Pour nous accompagner dans ce voyage, Giusto Traina, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un Italien qui a enseigné à Lecce, en France à Rouen, et qui vient d'être élu à la chaire d'histoire romaine de Paris-Sorbonne. Félicitations, parce que vous êtes peut-être le premier Italien élu à la Sorbonne.
Merci.
J'ai employé le mot voyage parce que vous concevez l'histoire comme un voyage.
Oui, 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 effectivement, je suis peut-être un peu nomade, un peu barbare moi-même. Et normalement, quand j'envisage un projet d'écriture, je fais le possible pour voyager dans la mesure de mes finances, de mes possibilités, et surtout de mes contraintes professionnelles, de visiter, de voir des musées, de voir des sites, et de voir aussi qu'est-ce que ces endroits sont devenus maintenant. C'est très important de voir aussi, d'aller voir l'histoire. Normalement, par exemple, quand il y a une autre manière de voyager, il y a les voyageurs d'art. Donc, celui qui aime simplement s'épamer devant des beautés, des chefs-d'œuvre. Moi, je me sens plutôt touché quand, dans certains endroits, on arrive vraiment à sentir l'histoire, et il ne s'agit pas nécessairement d'endroits toujours très, très agréables.
Alors avant d'en venir à l'Antiquité tardive, au cœur de l'Antiquité, vous racontez une défaite que Rome a connue en 53 avant Jésus-Christ, dans un endroit que vous avez peut-être visité, c'est en Mésopotamie, ça s'appelle ?
Oui, c'est Kar, donc aujourd'hui c'est Harran, en Turquie, à la frontière syrienne.
C'est le thème de votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions des Belles Lettres. Les autres, les barbares, pour les Romains à ce moment-là, est-ce que c'est seulement les Gaules, les Germains et les Sarmates, ou bien est-ce que c'est aussi des gens qui constitue un véritable empire alternatif, d'une certaine manière, à celui de Rome, et qui reprend la tradition de l'Iran, l'Empire Parthe.
Oui, oui, mais effectivement, quand vous me posez la question, qu'est-ce qu'un barbare ? On pourrait trancher tout de suite et dire, on est toujours les barbares de quelqu'un d'autre. Mais effectivement, en étudiant l'histoire romaine, on se rend compte que le problème barbare existe, mais que l'historien moderne a des problèmes de définition. Finalement, le mot barbare est d'origine grecque. Pour les Grecs, un barbare, c'était quelqu'un qui n'était pas grec, qui n'avait pas la même identité. Or, pour les Romains, c'est différent. Et notamment pour les Romains qui ont commencé à bâtir un empire de la fin de la République au début du Principat. Et là, effectivement, on ne se pose plus le problème des autres peuples en tant que barbares, mais en tant que population, communauté, cité, empire, qui sont en interaction avec Rome. Il peut s'agir d'une interaction, violente, ou bien d'une interaction pacifique.
Alors, on va commencer par les interactions violentes. Vous racontez dans Anatomie d'une défaite commence en 53 avant Jésus-Christ, Suréna et ses cataphractes. Qu'est-ce que c'est des cataphractes?
Oh, c'est de la cavalerie lourde.
Ouais. Les Parthes vainquent le malheureux Crassus, dont le corps va être livré aux bêtes pendant que les têtes des officiers romains décapités sont exposées sur les murailles. Assez régulièrement, il y a comme ça des tempêtes qui provoquent la sidération chez les Romains. Elles peuvent venir de beaucoup plus près que de l'Empire Parthe. Par exemple, ici, nous sommes en l'an 9 après Jésus-Christ et on vient annoncer à Auguste une bien mauvaise nouvelle.
César, pardonne-moi, mais un messager vient d'arriver de Germanie.
Tu as perdu la tête? Tu n'espères pas me voir recevoir des messagers à cette heure?
Mais c'est urgent, César, très urgent. Il semble qu'il y ait eu un grand désastre.
C'est ainsi que tu te présentes devant l'empereur? Tu aurais pu prendre un bain.
Pardonne-moi, César. J'ai chevauché 4 jours, je n'aurais jamais pensé...
À quelle légion appartiens-tu?
J'étais avec la 19e.
Tu étais? Pourquoi? Aurais-tu été muté?
Non, César. La 19e légion n'existe plus. Pas plus que la 18e ou que la 17e. Toute l'armée de Quintilius Varus a été massacrée dans la forêt de Teutberg. Il ne reste plus rien, entre les tribus germaines et les provinces de la Gaule.
Massacrée?
Il n'y a plus d'armée romaine en Germanie.
Et les Germains ont fait des prisonniers?
Oui, ils les ont enfermés dans des cages d'osier et les ont fait brûler vifs.
Extrait du téléfilm d'Herbert Wise. Claude, moi, empereur. Ah bah les Germains, déjà, hein, ils ont mauvaise réputation.
Et
ils brûlent vifs leurs captifs.
Oh, les Romains aussi étaient pas mal cruels. Mais effectivement, on venait d'évoquer le problème du péril asiatique, donc avec les Parthes et l'Iran. Mais effectivement, quand on parle des barbares, normalement, on envisage tout de suite, surtout, les populations d'origine germanique ou des gens donc qui parlaient une langue indo-européenne comme la nôtre, qui n'était pas totalement différent par rapport aux populations celtiques et qui, à partir d'un certain moment, ont créé un véritable problème. Là, vous évoquez les désastres de Teutoburg, en 9 après Jésus-Christ. Effectivement, il s'agit d'un exactement comme la bataille des Carres qui a bloqué l'avancée romaine en Mésopotamie. Teutoburg a donné fin à l'expansion d'Auguste vers la Germanie.
Mais comment les frontières s'établissent-elles? On imagine des murs, parce qu'il y a le mur d'Adrien dans la Grande-Bretagne actuelle, mais il faut penser que les frontières sont peut-être plus poreuses que cela.
Mais oui, bon, dans le cas de Teutoburg, la frontière était le Rhin et le Danube aussi a joué le rôle de fleuve frontière. Mais effectivement, la construction d'une architecture linéaire, notamment à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, dont on voit encore les traces, pas qu'au Royaume-Uni, mais aussi par exemple en Afrique, a fait effectivement rêver les savants. Et au XIXe siècle, on avait encore une idée que ces murs étaient une sorte de barrière imperméable contre les barbares des extérieurs. Et justement, pour permettre à l'Empire romain, avec toute sa confédération des provinces et des cités, de vivre en paix en dehors de cette confusion.
Alors que les Romains cherchaient à faire pénétrer leurs produits dans le barbaricum et que les barbares introduisaient la fourrure, qui a des avantages que la toge n'a pas toujours, ou l'ambre de la Baltique et bien
par
d'autres
exemple.
Produits. Et c'est comme ça, la porosité étant beaucoup plus grande qu'on ne le croit, que se créent des échanges et que les barbares vont trouver peu à peu un rôle économique dans l'Empire romain. Au moment de l'exposition du Palazzo Grassi, dans votre chère Italie, c'était en 2008, voici ce qu'on disait sur les écrans de France 2.
Ils avaient besoin d'ouvriers, ils avaient besoin de paysans, ils avaient besoin de gens dans les armées. Et donc, effectivement, ils les accueillent très volontiers, ils essayent même de les intégrer.
Au début, les intégrer, ça veut dire leur donner un CDI, version esclave. Cette main-d'œuvre est abondante. Et de plus, elle est gratuite. Mais de gratuite, elle va passer à bon marché. Rome a beau ne pas aimer les étrangers qui arrivent, Rome n'est pas bête. Et va les utiliser pour les travaux pénibles et mal rémunérés. L'immigration, c'est l'histoire d'une méfiance éternelle.
Ils se sont mariés sur place, ils ont échangé sur place. Effectivement, les barbares se sont peu à peu acculturés et donc sont rentrés dans la civilisation, ou en tout cas dans les modes de vie romains.
Les barbares ont fini par s'intégrer au petit commerce, au petit profit. Des hommes d'ailleurs qui survivent avec des petits boulots qui consistent à vendre des petits objets aux passants. 2000 ans plus tard, l'histoire comme un écho.
Ça va, c'est quand même
femme de ménage, ou femme tout court, ou bien artisan, oui. Ou bien soldat.
Soldat, surtout soldat. Et les, effectivement, à partir d'un certain moment, les Romains ont toujours utilisé des troupes auxiliaires, notamment parce que la Légion avait une conformation particulière liée à l'organisation de la cité de Rome, donc de la communauté, et qui était fondée donc sur l'infanterie lourde. Et pour, afin d'être plus performants sur le champ de bataille, ils avaient besoin des spécialistes. Alors, par exemple, déjà à l'âge républicain, on recrutait des frondeurs, donc des tireurs de fronde qui venaient des îles Baléares, ou des cavaliers d'Afrique, ou encore des archers d'Orient. À partir d'un certain moment, et notamment avec les réformes de l'empereur Hadrien, donc de 117 à 138 après Jésus-Christ, les auxiliaires ont commencé à s'intégrer de plus en plus dans l'ensemble de l'armée romaine, et en déclenchant un processus qui a amené, qui a fait parler des barbarisations de l'armée, mais c'est un terme peut-être excessif, mais qui effectivement a permis l'intégration de spécialistes, voire de mercenaires, dans l'ensemble du dispositif militaire de l'Empire.
Marchands, artisans, monsieur Traïna, soldats, auxiliaires, colons aussi, qui ne méritent pas de rester esclaves, se pose donc la question du statut de ces barbares. Nous sommes avec le film La chute de l'Empire romain, dont voici un extrait à la fin du IIe siècle, après le règne de Marc Aurèle, qui a dû se porter sur le front face aux barbares plus souvent qu'à son tour, débute ce qu'on appelle l'Empire tardif.
Il faut transformer ces amis que vous me reprochez en citoyens pacifiques. Confions-leur pour les cultiver nos terres abandonnées. Non seulement ils produiront de quoi se nourrir eux-mêmes, mais je vous le certifie, plus tard ils enverront des vivres à Rome.
Oui, je suis d'accord, qu'ils cultivent ces terres, qu'ils produisent des vivres, mais comme esclaves. C'est ainsi que nous avons toujours fait.
Non, parce qu'aujourd'hui il n'est plus avantageux d'avoir des esclaves. Les esclaves produisent moins que les hommes libres. Cherchons donc ce qui est à la fois profitable et juste. Accordons à ces gens le plus grand bien qui soit. Ne leur refusons pas le droit de jouir de la liberté romaine. La nouvelle se répandra dans le monde que Rome les a admis comme des égaux, et c'est seulement alors que nous aurons nos frontières humaines. La paix romaine que Marcus Aurelius avait promise.
Marc Aurèle, qu'on citait tout à l'heure. Alors, la question de la citoyenneté de ces barbares.
Oui, bon, la scène de ce film se passe justement au moment de la mort de Marc Aurèle, dans 180. Et il faut dire que sous cet empereur, il y avait eu une grande épidémie, donc qu'on appelle la peste de l'époque des Antonins, qui avait créé des problèmes de sous-peuplement à l'intérieur de l'Empire. Ceci a entraîné la déportation, voire le transfert de certaines populations. C'est grosso modo comment on vient d'écouter. Mais ceci a commencé à développer un débat juridique qui avait commencé depuis longtemps, surtout sur l'intégration. Au début, on ne parlait que de l'intégration des élites. Maintenant, on commence à parler de l'intégration des populations entières. Et c'est ce qui amène, avec un processus qui a duré même pas un demi-siècle, à l'octroi de la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire, sauf des petites communautés trop barbares pour être totalement romanisées.
212, l'édit de Caracalla. Alors vous dites que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Enfin, ça a été quand même au prix de beaucoup de discussions. Les barbares, aux yeux d'un certain nombre de sénateurs, toujours un extrait de la chute de l'Empire romain, faisant figure à plus d'une fois de bouc émissaire.
Sénateurs de Rome, Caius Metellus Livius a demandé que nous, Sénat romain, nous accordions à des barbares, à des sauvages, la qualité de citoyens romains et des terres romaines. Que nous traitions ces égorgeurs nomades comme des frères et des égaux. Et que ferons-nous à l'égard des autres provinces ? De la Gaule, si loyale envers nous, de la Syrie, de l'Égypte qui nous ravitaille en grains. Si nous faisons des Romains de ces barbares, pourrons-nous refuser cette faveur aux autres peuples ? Que deviendra le prestige inestimable attaché à la qualité de citoyens romains ? Nous sommes des guerriers, crucifions les chefs, vendons les autres comme esclaves. Et qu'ils apprennent une fois pour toutes ce qu'il en coûte de se dresser contre Rome.
Dans une hutte, on a grandi. Depuis tout jeune, on prend des nions. L'acier tranchant, c'est notre vie. Et nos loisirs, c'est la baston. C'est en marchant dans les entrailles que les barbares vont à l'assaut. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. Zrac le berserque était un abruti. Il s'énervait quand on pillait. Il frappait aussi bien sur les amis, mais c'est pas grave, on lui rendait. Gourgaleau était immense, il cassait les arbres en toussant. Il sautait par-dessus les granges, en piétinant les gens, c'était marrant. Kirn le véloce était rapide, il doublait les fauves en courant. Il parcourait la plaine de Cride en 20 minutes et encore y avait du vent. C'est en marchant dans les entrailles que les barbares vont à l'assaut. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Alors en ouverture de notre deuxième partie, on va entrer là vraiment dans l'Antiquité tardive, 4e, 5e siècle. Notre thème aujourd'hui étant Rome et les barbares. C'était une production du Donjon de Naulbeck. Le Donjon de Naulbeck, c'est un groupe qui, issu de l'univers des jeux vidéo, produit des séquences audio brèves et fortes, vous voyez, tranchantes comme la hache. Vous vous comptiez, Justo Traina, nouveau professeur élu à la chaire de civilisation et d'histoire romaine de Paris-Sorbonne, mettre en exergue une phrase de votre composition ?
Oui, mais autrement dit... Un barbare, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème.
Oui, mais si vous chiffriez plus précisément, monsieur le professeur, il y a peut-être quoi, 50 millions d'habitants dans l'Empire à tout casser ? Il y a combien de barbares autour ?
Ah oui,
5-10% de la population de l'Empire ?
Alors, il faut... il y avait aussi, évidemment, un élément des barbaries internes. Parce qu'on a toujours l'habitude de penser à ces peuples qui étaient à la frontière. Donc, c'est une image assez courante dans la littérature de l'époque qui est aussi une littérature qui commence à faire transpirer de l'angoisse.
Parce que les barbares étaient au centre du massif romain.
Oui.
Mais autour.
Autour et à partir d'un certain moment, nous commençons à voir... le début du processus que dans la tradition latine, française, italienne, espagnole, est considéré comme la période des invasions. Et que nos amis les Allemands appellent plutôt l'époque des grandes migrations.
Alors ça, c'est le 4e, 5e siècle. Les grandes migrations, ce sont des barbares qui, une fois avoir utilisé des terrains et s'étant aperçus qu'ils étaient suroccupés, la densité devenant trop forte, vont ailleurs et en poussent d'autres.
Dans d'autres cas, il y a aussi des mouvements de population de l'intérieur qui obligent des communautés entières à se réfugier là où il y a effectivement un État qui fonctionne bien, c'est-à-dire l'Empire romain.
Les Huns vont pousser les Gaules, vont entrer.
Oui.
Dans l'Empire romain.
Oui. Et effectivement, dans certaines périodes, l'Empire romain, au IIIe siècle, dans la période des grandes crises, ces vagues ont commencé à se mettre en place et l'Empire a dû, à un moment donné, élaborer des stratégies, des réactions qui ont amené même à la constitution d'empires satellites, comme l'Empire gaulois, par exemple, au IIIe siècle. Mais après la restauration et la mise en place d'un nouveau dispositif administratif et militaire à partir de Dioclétien, 284, la menace de ce peuple semblerait-elle être étouffée. Et on a toujours besoin des communautés pour cultiver les terres qui ont été abandonnées après la période des crises, et de l'autre côté, des mercenaires, voire de militaires effectifs pour renforcer les rangs de l'armée.
Je prends deux, trois dates dans cette période dite des grandes invasions chez nous autres, Italiens comme vous, ou Français. 378, quand je parlais des Huns qui poussent les Goths, les Goths fuyant se soulèvent, dévastent la Thrace. L'empereur Valens se porte vers eux. Il est défait, il est tué. Et alors là, on constitue une sorte de petit empire Goth à l'intérieur de l'empire romain qui va avoir son autonomie. On donne aux Goths des territoires dans les Balkans.
Et oui, mais c'est la bataille. Vous évoquez la bataille d'Andrinople. Donc c'est le 9 août 377 qui est disons, le point final d'une période de conflits qui ont duré 2 ans. Montre aussi la faiblesse de l'Empire devant des populations qu'on considérait comme des hommes de seconde catégorie. À partir de ces moments, on commence à comprendre qu'il faut changer de stratégie. C'est l'empereur Théodose Ier, donc Théodose le Grand, qui cherche à mettre en place une politique d'intégration des Goths, et qui a un certain succès et qui est destiné à échouer après la mort de Théodose et le partage de l'Empire en 2 parties à partir de 395.
Je prends une autre date, 428. Vous avez consacré tout un livre à 428, il ne se passe rien.
Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Effectivement, on pouvait choisir d'autres dates charnières. Donc 410, le sac de Rome, ou 476, la chute de l'Empire d'Occident. Et moi, je préférais parler d'une autre chute. Donc le royaume d'Arménie, qui effectivement a eu fin en 428, après six siècles de vie, un royaume qui théoriquement devait être considéré comme quelque chose de très marginal par rapport à la réalité de la Méditerranée, et qui finalement a joué toujours un rôle primordial dans le grand conflit entre Rome et l'Iran. Et cela a entraîné une sorte d'effet domino que je me suis attaché à montrer dans ce livre.
Mais ce que vous montrez aussi, c'est la pluralité de figures brillantes chez les hommes et aussi chez les femmes. La décadence joue dans la surabondance. Allez, la dernière date, 476, le siège de César. Vous parliez de l'Empire d'Italie. Laissons de côté Constantinople, qui maintient à sa manière la romanité, a été transféré au nord du pays, à Ravenne. Il est occupé par un gamin, Romulus Augustule.
La garnison de Rome a fait serment d'allégeance à Odoacre. Ils se rangent tous du côté des Goths. Nous chasserons les envahisseurs.
Odoacre n'est pas qu'un simple barbare.
Ah non ?
Non, c'est devenu un politicien d'une grande acuité. Dorénavant, il a le Sénat de son côté. Romulus.
Tu veux dire César ?
César est un mot qui appartient au passé. Aujourd'hui, il n'y a plus de César.
Rome est tombée.
Depuis 10 ans, j'apporte mon soutien à Rome. 10 ans ! Et je réclame ce qui me revient.
Qu'est-ce qui te revient, général ?
Le tiers de toute l'Italie.
Au fond, ce qui se constitue, c'est une myriade de royaumes.
Oui.
Qui gardent la romanité.
Alors, sur le plan juridique, théoriquement, après 476, il y a toujours une autorité. C'est l'empereur d'Orient, qui siège à Constantinople. Mais la réalité est fort différente. Donc, il y a une naissance de véritables royaumes, de royaumes, on les appelait autrefois les royaumes romano-barbares, ce sont des royaumes germaniques qui étaient déjà installés sur place. Le grand choc, c'est justement la perte du premier centre de l'Empire romain, à savoir l'Italie. Mais il y avait déjà une installation de Visigoths en Espagne, dans la France atlantique, dans le côté de l'Armorique. Et évidemment, toute une présence de Francs. Les 476, c'est une date qu'on a voulu établir comme charnière, mais c'est une date qui a une signification tout à fait administrative. Et pour dire une boutade, finalement, on pourrait dire mais quand est-ce que l'Empire romain a vraiment été éliminé? Bon, la réponse est 1806, quand Napoléon a décidé d'éliminer les titres d'Empire sacré et germanique.
Donc, vous qui insistez sur la longue durée, vous diriez que l'Empire aboli à Vienne en 1806, c'est la poursuite de l'Empire d'Occident. L'Empire d'Orient, Constantinople, il a duré jusqu'au milieu du 15e. Et puis, continuons sur la continuité, le christianisme qui s'est beaucoup installé, il a perduré. Parce que quand Saint-Augustin a pris le sac de Rome, il n'était pas désespéré, il était chagriné. Il n'était plus absolument obligatoire pour le christianisme d'être lié à la cause de l'Empire romain.
Oui, en même temps, Saint-Augustin est mort en Afrique à l'époque de l'occupation vandale. Donc c'est l'une des provinces les plus riches de l'Empire romain qui est détachée, et les Vandales en profiteront pour occuper l'Afrique et plutôt la Sicile, et aussi de faire 2 sacs de Rome qui sont peut-être moins connus que celui de Visigoth en 410, mais qui ont été aussi sanglants et dangereux.
Tout ça, c'est quand même vécu dans la souffrance et la violence, osons le dire, juste au Traïna.
Mais n'oublions pas que les Vandales aussi étaient des chrétiens. Bon, c'est vrai, c'était des hérétiques parce que ça leur permettait comme ça de saccager des églises, catholiques sans aucun problème. Mais c'est un moment où le christianisme devient un véritable bouillon de culture universelle.
Alors, en exergue, tout à l'heure, vous citiez une phrase que je ne vais pas répéter. Un barbare, ça va quand il y a trop de barbares. Allez, je trouve une autre phrase issue de l'Ecclésiaste que vous aimez comme François Mitterrand. C'est en exergue de votre livre Anatomie d'une défaite aux éditions des Belles Lettres, juste au Traïna. Un âge va, un âge vient, et allez, je dis la suite.
Eh oui, tout est vanité.
Eh oui, et la terre tient toujours. Jacques Sigal, Franck Olivard, Meryl Moneghetti, Frédéric Martin, Philippe Duclos, Sandrine Laurent, l'équipe de la Marche de l'Histoire. Tout à l'heure, faire la pluie et le beau temps, c'est le sujet de la tête au carré. Et demain, nous parlons, nous, de la mer, avec Duguay Trouin, qui a pris Tripoli en 1731. Il ne faut pas l'oublier en ce jour de visite présidentielle.